Le texte pour notre méditation de ce matin se situe dans le livre de Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 21. Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 21. Au nom de Jésus. Quand Jésus entendit cette nouvelle, il partit de là en barque pour se rendre seul dans un endroit isolé. Mais les foules l'apprirent, elles sortirent des localités voisines et suivirent Jésus en marchant au bord de l'eau. Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Il eut le cœur rempli de pitié pour ces gens et il se mit à guérir leurs malades. Quand le soir fut venu, les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et dirent « Il est déjà tard ». Et cet endroit est isolé. Renvoie tous ces gens pour qu'ils aillent dans les villages s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Ensuite, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et ceux-ci les distribuèrent à la foule. Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent 12 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre d'environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. J'essaie de m'imaginer assister à la scène, essayer de me mettre dans la peau de ceux qui étaient présents dans ce moment de multiplication des pains. Jésus qui se sentait fatigué. Mais il est possible que Jésus aussi soit fatigué? Oui. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a dit, on va aller de l'autre côté pour se reposer. Oui, Jésus est un être humain, ne l'oublions pas, même s'il est Dieu. Il avait besoin de faire une petite pause avec ses disciples pour se reposer et surtout pour manger. Donc, la fatigue les guettait. Or, qu'est-ce qui s'est passé? À leur arrivée, ils étaient devancés par la foule. La foule était déjà arrivée avant eux. Il y avait une fuite d'informations parmi les disciples. Les gens étaient au courant qu'il allait dans tel endroit. Et là, par surprise, les gens étaient tous là. Et ce n'est pas juste une poignée, 5 000 personnes. Vous imaginez l'information qui circule vite. Honnêtement parlant, si vous étiez à leur place, mettez-vous dans la place de Jésus et des disciples. Quelle serait votre attitude en voyant tout ce beau monde qui vous attend? Soyons honnêtes. Je suis sûr et certain, vous serez agacés. Moi, en tout cas, je le serai. Agacés même si nous voyons une foule qui adulait Jésus. Ici, c'est une foule un peu comme la réaction des fans. Vous voyez les fans pour les joueurs de foot ou les chanteurs qui ne respectent même pas la vie privée de certaines personnes. Et rien que dans leur intimité, leur repos, ils venaient encore s'immiscer là où Jésus était. Et le comble dans tout cela, si ce n'était que par curiosité, ça irait. Non, ils viennent encore pour déranger Jésus dans sa pause. Ils attendent encore de lui, enseigne-nous toujours. Et en plus, en bonus, donne-nous à manger. Vous imaginez la scène, Jésus était fatigué, il voulait se reposer, il voulait manger sa tartine, et tout à coup, 5 000 personnes vous demandent à manger. Faites un peu le calcul. Est-ce le rôle du Christ le Fils de Dieu, de s'occuper de tout ce qui est social de la foule? Une question que nous allons répondre plus tard. Il est écrit que lorsque Jésus vit la grande foule, quelle était sa réaction? Il était ému. Et l'Évangile ici l'a bien souligné. Ému. Or, moi, si j'étais à la place de Jésus, j'admets, je serais fâché, ennuyé, agacé, parce que c'est trop. Il se peut que je prenne même une prise de colère, de ras-le-bol face à des personnes qui ne respectent rien. Et la preuve, les disciples avaient cette réaction que moi j'avais. Quand Jésus a donné l'ordre de faire asseoir la foule et de les donner à manger, quelle était la réaction des disciples? Ils voulaient se débarrasser d'eux. Voilà ce qu'ils disaient. Renvoie-les pour qu'elles aient acheté des vivres dans les villages. Ce n'est pas à nous de s'occuper de ce beau monde. Ils nous dérangent dans notre vie et c'est encore nous qui devons donner à manger. Et ils avaient raison, humainement parlant, ces disciples. Pour les disciples, déjà le fait de les voir là, à cet endroit, n'était pas prévu dans le planning, n'était pas prévu dans le programme de Jésus. Or, Jésus dit, recevez-les, faites-les asseoir. Et ils ont reçu un long enseignement qui a duré toute la journée. Vous imaginez, ce n'est pas juste, bon, allez, on va faire un service minimum de 30 minutes, comme ça, ils seront contents, après, rentrez chez vous. Toute la journée. Que demander encore de plus? Et pourtant, aux yeux de Jésus, ce qu'il vient de faire n'est pas encore assez. Il donna encore des consignes aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. C'est la totale. Alors, ma réflexion... La première réflexion que je me suis fait, servir Dieu, chers amis, ce n'est pas assurer un service minimum. Juste donner la parole et basta. La suite, ça ne me regarde pas. Qu'est-ce qui fait notre différence, nous, chrétiens, par rapport au monde où nous vivons? Beaucoup font de bonnes œuvres caritatives, les ASBL, même ceux qui sont athées agnostiques. Certains même arrivent à faire plus que nous, des choses énormes, extraordinaires que l'Église. Mais justement, l'esprit de cette histoire, de la multiplication des pains, nous enseigne que l'abondance ne vient pas de la quantité. L'abondance ne vient pas de la quantité. Il ne faut pas attendre la quantité pour pouvoir partager. Parce que dans le monde, s'il y a un surplus, si tu as un peu plus, alors tu en donnes une partie. C'est ça le paradigme du monde. Par contre, le paradigme du royaume de Dieu, le peu que tu as, tu le donnes encore. C'est ça, le paradigme du royaume de Dieu. Ce n'est pas l'action en elle-même qui est le plus important. Ce n'est pas la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Donner à manger à des gens qui ont faim, ce n'est pas cela qui est le plus important. Mais c'est l'émotion qui vient du fond de nos tripes. Jésus était ému et il a donné l'ordre. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, bon, ces gens-là m'agacent, bon, donnez-leur quand même à manger. Non, il était d'abord ému, et c'est à partir de cette émotion qu'il a fait quelque chose. Vous savez, ce qui fait peur aujourd'hui, mes frères et sœurs en Christ, c'est la banalisation de la pauvreté. Tellement la pauvreté est quelque chose qui nous rend tellement, aujourd'hui, qui ne fait pas bouger les gens. La banalisation de la misère, la banalisation de la souffrance de l'être humain. Le monde semble être de plus en plus habitué à voir de la souffrance à la télévision, dans les médias, sur les réseaux sociaux, on nous a gavés de souffrance et c'est fait exprès pour que nous n'ayons plus d'émotion. Ah, quelqu'un qui est mort, oh, c'est pas grave. Il a faim, ben oui, on connaît des gens qui ont faim. Voilà l'effet matraquage qu'on reçoit journalièrement. On trouve de moins en moins de personnes qui ont leurs tripes remuées au plus profond d'eux-mêmes. On est vacciné. Et malheureusement, la société en profite même encore de ces malheurs pour s'enrichir, pour faire passer leur idéologie, par exemple. Et même nous, les églises, on profite de cette malheur des gens comme si c'était une belle occasion d'enfoncer le clou. Une souffrance reste toujours une souffrance. Ne dénaturons pas la souffrance des hommes. Ne surfons pas sur la souffrance de notre prochain. Il y a des églises qui profitent de la souffrance des autres pour pouvoir les avoir dans leur filet. Juste une petite remarque. Vous avez tous vu dans les nouvelles le PDG d'Amazon qui s'est encore enrichi un peu plus grâce au Covid-19. Soit 75 milliards de dollars. Rien que pendant le confinement. Pour vous dire que les malheurs ne poussent pas les gens à être émus. Il se peut que pour certains, ils en trouvent même une occasion de s'épanouir. Où se situe l'Église par rapport à tout cela? Où moi je me situe face à la souffrance de l'autre? Et la deuxième réflexion que je me suis fait, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce texte, c'est le renversement de la situation. Jésus, qui est à la fois Dieu et humain, ne sépare pas la dimension spirituelle et la dimension corporelle. Regardez ici, cette foule venait pour entendre l'enseignement de Jésus, c'était leur but. Mais en plus de tout cela, Jésus ne les a pas fait rentrer chez eux avec le ventre vide. Lui qui est Dieu avait le réflexe de tenir compte de la faim de la foule. Normalement, un Dieu ne s'occupe pas de ce genre de choses. Mais lui, il s'inquiétait pour leur bien matériel. Lui qui est Dieu avait ce réflexe-là. Tandis que les disciples, regardez bien l'inversement, les disciples qui ne sont que des humains, qui devraient avoir un peu d'humanité, ils devraient comprendre encore un peu plus la situation humaine de la foule. Or, c'était l'inverse. À leur tour, ils ont délaissé le côté humain et ne tenaient compte que le spirituel. Oh, maintenant, ils ont déjà entendu ta parole, laisse-les rentrer chez eux. Vous voyez là, c'est le monde à l'envers. Étonnant qu'on constate, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas le discours de certains chrétiens qui se disent pieux et mettent de côté tout ce qui est matériel et corporel? Il n'y a que le spirituel. Ce texte nous montre clairement que l'homme, dans toute sa totalité, c'est l'être humain. Rien n'est laissé à l'abandon. Même pas ce corps qui va être enterré sous la terre. Dieu prend charge, Dieu s'en occupe. Ce n'est pas parce que l'être humain est destiné à mourir que nous ne devrions pas prendre soin de ce corps que Dieu nous a donné. Sinon, le Christ ne serait pas incarné. Et surtout, la résurrection des fidèles n'aura pas sa raison d'être. S'il y a résurrection de la chair, comme nous disons dans la confession de foi, cela implique que le corps a une importance aux yeux de Dieu, s'il y a résurrection de la chair. Alors la différenciation et l'inversion de la réaction de Jésus et de ses disciples continue encore, et surtout dans la recherche de solutions de problèmes ici. Face à une souffrance quelconque, comme ici, il y a un manquement. Analysons un peu leur réaction. Les disciples, face à la problématique, quelle était leur solution? Ils cherchaient une solution extraordinaire qui vient de loin. Il faut faire envoyer la foule dans les villages autour pour acheter de quoi vivre. Voilà la solution qu'ils ont trouvée. En d'autres termes, ils ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent pas se mouiller la chemise, ni se mouiller pour ces gens-là, comme on dit. Ils disaient à Jésus, renvoie-les chez eux, ce n'est pas notre affaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un calcul des risques assez énorme. Il y aura un risque pour notre caisse. Si on touche à la caisse des disciples pour 5 000 personnes, qu'est-ce qui nous restera? Alors ils ont opté une solution de facilité. Renvoie-les. Et Jésus avait compris. Tandis que Jésus qui est Dieu, et je vous dis toujours qu'il y a un paradigme qui est toujours, qui change ici, ce Jésus qui est Dieu, qui avait tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre, il aurait pu demander la manne, comme au temps de Moïse, tomber pour ces gens-là, mais il ne l'a pas fait. C'est ça qui m'a étonné dans ce texte. Il aurait pu faire une démonstration de force, « Oh Père, fais tomber des pains du ciel pour cette foule !» Non, il ne l'a pas fait. Le geste de Jésus ici, qui a pris les pains et les poissons dans ses mains, « Donnez-le vous-même à manger, qu'est-ce que vous avez avec vous ?» 5 pains et 2 poissons. Et il a pris le pain et les poissons, et il a levé les yeux vers le ciel. Et ce geste montre vraiment cette logique du royaume des cieux. Quelle est cette logique? Rappelez-vous de la parabole du grain et du grain de sénévé. Une petite graine qui donnera un grand arbre où les oiseaux pourraient venir trouver refuge dans cet endroit. Cette logique depuis la création du monde. Au tout début de la Genèse, qui avait-il au tout début? Par quels moyens Dieu avait créé cet univers si immense que nous voyons actuellement? Il y avait juste une petite lumière, Genèse chapitre 1, verset 1. Et j'attire votre attention ce matin à faire le lien de cette histoire de la création et le langage scientifique concernant la création quand on parle de du Big Bang. Les scientifiques acceptent tous que de nulle part surgit une étincelle plus petite qu'un atome. Et la chaleur qu'elle dégage est des milliards et des milliards plus intense qui règne au cœur du soleil. Cette petite lumière qui vient de nulle part. Et c'est ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1. Au début, il y avait la lumière. Une toute petite lumière, mais dans cette petite lumière, il y a la puissance de Dieu qui a su créer le monde. Un simple point, des millions de fois plus petite qu'une taille d'une épingle, vous imaginez, qui a engendré tout cet univers dans une formidable explosion. Et de là est né le temps et l'espace. Voilà la multiplication. À partir de rien du tout, que Dieu a fait exploser, fait multiplier, comme il a multiplié le pain et le vin, le pain et le poisson. Et en analysant cela, et notre texte principal, nous pouvons voir que le paradigme de Dieu avait utilisé depuis toujours la même chose. À partir de presque de rien du tout, que Dieu fait multiplier de grandes choses. Telle est et telle sera la logique du royaume des cieux jusqu'à la fin des temps. Rappelez-vous la naissance du petit Jésus. En cet enfant se repose l'avenir de toute l'humanité. Cet enfant fragile dans les bras de sa mère. Voilà le mystère caché derrière cet évangile de Matthieu qui au départ ne parlait que de pain et de poisson. Mais derrière l'image se cache toute une sagesse divine qui va jusqu'à la croix. Et nous connaissons tous, je crois, la parole de Paul dans l'Épître aux Romains, qui dit que la bonne nouvelle, qui n'est autre que la croix, en effet, est la puissance de Dieu. Chers amis, pour clôturer, la grandeur de Dieu se cache toujours derrière des choses insignifiantes. Ne cherche pas la grandeur de Dieu dans des choses extraordinaires. Si tu veux voir la grandeur de Dieu commence par des choses insignifiantes. Ne cherche pas ailleurs, elle est là avec toi. En toi, qu'est-ce que tu as? Donne-les-moi, dit le Seigneur, et il va les faire multiplier. N'attends pas quelque chose qui vient d'ailleurs, elle est déjà là en nous. Contrairement à ce que le monde nous fait croire que la force se trouverait dans la quantité. La force se trouverait dans la grandeur. Mais quand tu as été digne de confiance, dit Jésus, pour une petite affaire, il nous confiera des grandes responsabilités. Et je termine avec cette phrase de Jésus. Savez-vous que vous allez juger des anges plus tard? Oui, toi qui es imparfait, toi qui n'es que poussière, Dieu te confiera le jugement des anges, c'est-à-dire tu seras le prince de son royaume. Voilà la grandeur que tu as déjà, mais que tu ne vois pas tous les jours. Tu cherches encore quelque chose qui va venir plus tard, mais tu l'as déjà en toi. Alors, Jésus te dit, faites-les asseoir et donne-leur à manger. Amen.